Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission proposée par Virginie Boer et Michel Clément. Comme nous l'avons évoqué précédemment, au début du XXe siècle aux États-Unis, les grands propriétaires de chevaux se sont découverts une passion pour le cheval arabe. Après avoir évoqué celle de Wilkie Kellogg, nous allons découvrir aujourd'hui celle d'un autre homme public, William Randolph Hearst. Cet homme d'affaires et mania de la presse écrite qui possédait 28 quotidiens, plus d'une douzaine de magazines, des radios et des compagnies de cinéma, a inspiré le personnage de Charles Foster Kane dans le célèbre film d'Orson Welles, Citizen Kane. Mais derrière l'homme qui a mis en avant la presse à sensation, se cache un homme de cheval qui a choisi également d'être un rancher. William Randolph Hearst avait hérité des terres achetées par son père en Californie en 1865, soit plus de 16 000 hectares entre Los Angeles et San Francisco. George Hearst avait fait fortune dans les mines d'argent. Il avait acheté ses terres autour de la baie de San Simeon, sur lequel il voulait entre autres construire un ranch et élever du bétail. Son fils William avait alors 2 ans et il partageait l'amour de son père pour le ranch du nom de Piedra Blanca Rancho. En 1917, alors qu'il y campait avec sa femme et ses enfants, William Randolph Hearst écrivait à sa mère « J'aime le ranch, j'aime la mer et j'aime les montagnes et les vallons, les endroits ombragés dans les criques, les vieux et beaux chênes, et même les coteaux chauds et broussailleux, pleins de cailles, et les canyons pleins de daims. C'est un endroit merveilleux. Je préférerais passer un mois au ranch plutôt que partout ailleurs. » Après la mort de son père, Hearst géra la propriété avec sa mère, puis il en hérita ensuite en 1919. Dès lors, il ne cessa de l'agrandir, venant même jusqu'à posséder plus de 100 000 hectares. En 1919, il n'y avait pas de maison au sommet de la colline, juste une cabane et quelques planchers pour dresser des tentes. William Randolph Hearst demanda à l'architecte Julia Morgan de lui construire un manoir, mélange de styles gothique et hispano-mauresque, destiné à abriter son extraordinaire collection d'œuvres d'art. Les chiffres et les lieux donnent une idée du gigantisme de l'entreprise. 165 pièces, un jardin de 51 hectares, des terrasses, 2 piscines, un terrain d'aviation et un zoo privé. La construction des bâtiments s'étala de 1919 à 1947. Et comme chez Kellogg's, les invités célèbres s'y pressaient. De son père, William Randolph Hearst avait hérité l'amour des beaux chevaux, de la terre et du ranch. Mais alors que son père avait élevé des pur-sang anglais, il se lança lui dans l'élevage des chevaux arabes. Tout d'abord, il se tourna vers les plus grands élevages américains. C'est dans les années 30 qu'il constitue en effet l'essentiel de son cheptel en se portant acquéreur de chevaux élevés et importés par le président de l'Arabian Horse Club, William Robinson Brown, lorsque son haras de Mansborough fut mis en liquidation. Brown avait acheté de nombreux chevaux d'origine crabette à la famille Blunt en Angleterre ou à des éleveurs américains. Il avait également envoyé le directeur de son haras en Égypte, d'où il était revenu avec des étalons et des juments. C'était donc des chevaux d'excellente origine que William Randolph Hearst accueillit à San Simeon dans ses écuries de Pico Creek. Son but, comme le révèle une lettre écrite à William Robinson Brown, était d'améliorer la race arabe aux États-Unis, de fournir des chevaux de qualité aux autres éleveurs et de préserver la pureté du sang arabe. Grâce à l'aide d'un autre président de l'Arabian Horse Club, Albert Harris, le cheptel de chevaux arabes ne cessa de grandir à San Simeon. Ses étalons les plus importants étaient Goulastra, Raas, Ghazi et Rial. Par ailleurs, Hearst louait également d'autres chevaux issus de divers élevages renommés, comme l'étalon alezan Antez appartenant à W. Kellogg, dont nous avons parlé dans l'émission consacrée à ce dernier. William Randolph Hearst élevait également d'autres races de chevaux américaines, comme les Quarter Horse, qui étaient utilisés par les cow-boys travaillant sur le ranch, mais aussi les Morgan. En 1929, Hearst acheta 14 juments de race Morgan qu'il fit saillir par son étalon Houlan. Entre 1932 et 1939, 110 poulains furent enregistrés par les écuries Hearst. Parmi ces derniers, il y avait 18 Morabs, un croisement entre les chevaux Morgan et les chevaux arabes. William Randolph Hearst a essentiellement utilisé ses étalons arabes Ghazi, Goulastra, June, Xaras et Saab en croisement avec ses juments Morgan. Les chevaux nés de ces croisements se sont révélés d'excellents chevaux de travail pour le ranch, des chevaux aux pieds sûrs, qui se déplaçaient facilement sur les terrains montagneux. C'est donc à Hurst que l'on doit le nom de Morab, qui est devenu une race à part entière. Mais attention, il n'est quand même pas le premier éleveur à avoir croisé des Arabes et des Morganes. En effet, le tout premier cheval issu d'un tel croisement qui soit entré dans l'histoire s'appelait Gold Dust. C'était un trotteur qui gagna une course célèbre en 1861. En 1947, afin d'acquérir de nouvelles lignées de chevaux arabes, William Randolph Hearst décida de financer une expédition qui entraînerait ses émissaires de l'Égypte au Liban en passant par la Syrie. Mais avant cela, nous allons écouter un extrait de Rhapsody in Blue de George Gershwin, un des morceaux les plus célèbres composés dans les années 20. La grande dépression qui toucha l'économie dans les années 30 et la Seconde Guerre mondiale avait mis un frein à l'exportation des chevaux arabes aux États-Unis. Pour Hearst, comme pour les autres éleveurs, il devenait crucial d'introduire des courants de sang nouveaux afin de revigorer les lignées arabes américaines. En 1947, au beau milieu de la nuit, Preston Dyer Jr., le manager des écuries de Hearst, reçut un appel téléphonique lui demandant de se rendre au manoir pour y rencontrer son patron. Celui-ci lui demanda ce qu'il fallait faire pour améliorer et diversifier les lignées arabes. D'ailleurs, suggéra que le mieux était de revenir à la source, c'est-à-dire d'aller chercher des chevaux dans les déserts et les plaines du Moyen-Orient. L'idée parut excellente à Hearst et il lui demanda de monter une expédition. Et pour couvrir les frais, Hearst mettait à sa disposition 100 000 dollars, soit 1 million de dollars de nos jours. La première chose que fit Dyer fut de se rendre au Nouveau-Mexique pour rencontrer Carl Raswan, qui avait été le conseiller de Kellogg, comme nous l'avons vu dans l'émission consacrée à ce dernier. Raswan lui proposa de lui présenter un prince bédouin, Fawaz al-Shalan, qui devait se rendre aux États-Unis pour assister à des réunions aux Nations Unies, qui avaient été créées en 1945. Dyer et le prince s'entendirent immédiatement. Dyer lui fit visiter la Californie et l'amena à Saint-Siméon. En juillet 1947, les deux hommes se rendirent à Londres puis à Paris pour rencontrer des éleveurs. Mais aucun des chevaux qui leur étaient proposés ne correspondait à ce qu'ils cherchaient. Ils se rendirent alors en Égypte où ils virent des centaines de chevaux mais sans plus de succès. Au Caire, deux nouveaux membres de l'expédition se joignirent à eux, le docteur Fred Pooling, vétérinaire à Saint-Siméon, et le photographe John Williamson qui n'était autre que le petit-fils de Wilkie Kellogg. Ils se préparaient à partir au Moyen-Orient quand des décisions politiques changèrent leurs plans. La division de la Palestine en deux avec la création de l'État d'Israël entraîna une réunion des délégués de la Ligue arabe au Caire. Fawaz en faisait partie. La réunion se tenant à l'hôtel où Fawaz et Dyer étaient descendus, ce dernier en profita pour demander aux leaders arabes où trouver des chevaux. Munis de ces informations, ils décidèrent de concentrer leurs recherches sur la Syrie et le Liban. Et s'envolèrent pour la Syrie une fois les réunions de la Ligue arabe terminées. Les membres de la tribu Rouala, à laquelle appartenait Fawaz, attendaient leur prince à l'aéroport. Ils étaient tellement nombreux que l'avion dut faire trois tours avant de trouver de la place pour se poser et le pilote coupa ses moteurs pour éviter de blesser tous ceux qui se pressaient autour de l'avion. Quelques jours plus tard, les trois hommes rejoignirent Fawaz dans le désert où 300 invités étaient réunis pour fêter son retour. Dans les jours qui suivirent, des centaines de chevaux furent présentés par les bédouins Rouala aux Américains, mais aucun ne répondait aux critères qu'ils recherchaient. Ils décidèrent alors de quitter la Syrie et de se rendre au Liban. Ils arrivèrent à Beyrouth, qui était à l'époque une ville très cosmopolite, prospère, et la capitale intellectuelle de la région. D'ailleurs, il rencontra le ministre des Affaires étrangères, Henri Faroun, qu'il qualifia comme étant, je cite, « l'homme connaissant le mieux l'élevage des chevaux arabes que j'ai jamais rencontré ». Faroun possédait des centaines de chevaux et fut même un temps le propriétaire qui avait le plus de chevaux arabes au monde. Il était également le président du groupe qui gérait l'hippodrome du parc de Beyrouth, où Dyer loua des écuries. Dyer, Williamson et Pooling voyagèrent à travers le Liban et la Syrie frontalière, rencontrant de nombreux bédouins dont certains venaient à leur rencontre pour leur vendre leurs chevaux. Finalement, Dyer acheta 13 chevaux. Certains d'entre eux provenaient des troupeaux de Faroun, qui lui donna la veille de son départ un 14e étalon, Arkane, un cadeau pour Hearst. À la tête d'un troupeau de 6 étalons et 6 juments arabes de 2 à 12 ans, Dyer devait maintenant trouver un moyen pour rapatrier les chevaux en Californie. Une épidémie de choléra qui avait éclaté en Égypte rendait impossible tout voyage direct entre le Moyen-Orient et les États-Unis. Après bien des difficultés, Preston Dyer réussit à pouvoir embarquer ses chevaux sur un bateau de croisière roumain, le Transylvania, en direction de Marseille. Mais les chevaux devaient rester sur le pont. Dyer fit alors construire des caisses en bois de la taille des chevaux où il accrocha des mangeoires pour le foin. Il leur fallut une semaine pour allier le port de Marseille où il dut rester encore 2 semaines supplémentaires avant de pouvoir embarquer sur le SS Marine Flyer, un cargo en direction de New York. Un voyage de 20 jours, sans incident particulier. Mais alors qu'ils étaient presque arrivés à destination, ils se retrouvèrent pris dans le dernier ouragan tropical de la saison. Pendant 2 jours, le bateau lutta contre la tempête, ballotté par les flots et les vents qui avaient déjà coulé 2 bateaux. Le vétérinaire Pooling surveillait attentivement les chevaux qu'il fallait aider régulièrement, car ils tombaient, 5 parfois en même temps. Le SS Marine Flyer finit par arriver à New York avec 3 jours de retard. Les chevaux n'avaient heureusement que quelques égratignures. Après 5 jours de repos, ils montèrent à bord d'un train en direction de la Californie. Arrivés à San Luis Obispo, des camions les attendaient pour couvrir les derniers 80 kilomètres qui les mèneraient jusqu'à San Simeon. Ils y arrivèrent au cours du dernier week-end de novembre et purent enfin être lâchés sur les terres du ranch. L'expédition avait duré 6 mois. D'ailleurs, Williamson et Pooling avaient parcouru plus de 40 000 km en avion, en bateau, en voiture, à cheval et à pied. On leur avait présenté 3 000 chevaux et ils en avaient ramené 14. Ironiquement, Hurst ne vit jamais ses chevaux venus du désert. Sa santé s'était détériorée et il avait quitté San Simeon pour Los Angeles où il pouvait bénéficier de meilleurs soins. Il ne revit d'ailleurs jamais ce lieu qu'il avait tant aimé, ni ses chevaux arabes. Aujourd'hui, le manoir et les terres autour ont été donnés à l'État de Californie et ils sont ouverts à la visite. Le fils et puis les petits-fils de Hurst ont continué à s'occuper du ranch où ils élèvent du bétail et les chevaux arabes depuis plus de 80 ans. San Simeon Arabians est aujourd'hui l'un des plus anciens élevages de chevaux arabes des États-Unis. Voilà, notre émission est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle émission des Messagers du Cheval.